France Inter.
Des spectateurs du monde entier ont vu l'aura de Zao de Sagazan électriser le public en chantant Modern Love de David Bowie au Festival de Cannes ou Sous le ciel de Paris d'Edith Piaf à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. L'ancienne étudiante en gestion des entreprises et des administrations à Nantes, qui officia ensuite comme auxiliaire de vie dans un EHPAD, aurait-elle pu imaginer qu'elle deviendrait une auteure-compositrice-interprète au succès fulgurant? Elle a d'abord chanté des reprises sur un réseau social, sans confiance en elle, mais avec pourtant l'assurance d'y arriver un jour. 7 ans plus tard, elle sort son premier album, La Symphonie des Éclairs, qui lui vaut 4 récompenses aux Victoires de la Musique de 2024 et celle de la meilleure artiste féminine en 2025. De mars à novembre 2024, elle fait 7 zéniths à Paris. La même année, sa symphonie sort dans une version enrichie de 7 morceaux inédits sous le titre « Le dernier des voyages ». Cette rentrée, elle revisite ses premières chansons en version littéralement symphonique sous la direction musicale de Dylan Corley. Cela donne une œuvre poétique, lyrique, cinématographique et qui convoque autant de grands sentiments qu'elle en provoque. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure. Eva Bester.
Bonsoir Zao de Sagazan.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Oh là là, il y en a tellement.
Ah bah c'est formidable.
Oui, je suis plutôt du genre à être très enthousiasmée. La première chose qui m'est venue là, c'est une pièce de théâtre que je suis allée voir qui s'appelle Le Passé au Théâtre de l'Odéon.
C'est ce que vous avez choisi de faire découvrir aux auditeurs. C'est Julien Gosselin qui l'a mise en scène, mais je vous en prie.
Je vais rarement voir le théâtre parce que j'ai malheureusement pas trop le temps en ce moment, ces derniers temps. Mais là, c'est mon scénographe Jean-Baptiste Verguin qui est un homme formidable avec qui j'ai un peu toujours pensé mon visuel de la scène, qui m'a dit écoute, il faut absolument que tu ailles voir ça. C'est une pièce de théâtre qui a changé ma vie et qui a changé ma manière de voir l'art et la mise en scène. Et donc j'y suis allée et j'ai effectivement été absolument émerveillée, très enthousiasmée et surtout très inspirée. Ça m'a beaucoup inspirée. C'est Victoria Kennell qui joue une femme qui tombe dans une certaine folie, bien que je ne sais pas si je suis sûre que ce soit de la folie, mais je pense que c'est l'actrice la plus talentueuse de France et très peu de personnes la connaissent. Je conseille à toute personne pouvant découvrir son talent d'aller le faire. C'est un jeu extraordinaire qui mêle en même temps théâtre, cinéma, masque, lumière, musique. C'est d'une générosité, d'une subtilité et en même temps d'une intensité qui me parle beaucoup. Voilà, donc j'ai été bouleversée, ce qui est rare d'être autant bouleversée, et ça m'a surtout donné envie, très très envie de faire un nouveau spectacle, et ça c'est assez agréable quand tu vas voir un spectacle qui te donne envie d'en faire un. Donc c'est la première chose qui me vient, mais en même temps j'ai été enthousiasmée aussi il y a quelques minutes par un rire. Voilà, en général je suis assez enthousiasmée par la vie, ce qui est plutôt une bonne chose.
Votre premier morceau s'appelait La Déraison, êtes-vous déraisonnable ?
Oh bien sûr, et un petit peu, enfin, je pense que c'est toujours intéressant. Après j'aime beaucoup me rattacher à la raison, mais je pense qu'il y a beaucoup de fois où je suis complètement déraisonnable. Mais ça dépend, je sais pas ce que ça veut dire raisonnable en même temps. J'ai pas très envie d'être raisonnable, j'ai pas très envie d'être déraisonnable. J'ai envie d'être assez équilibré et en même temps libre de comprendre ma folie intérieure un petit peu.
Qu'avez-vous de breton ?
De breton, bah mon amour pour les crêpes déjà.
Ah bah ça, je le partage, mais sans être bretonne.
Non, qu'est-ce que j'ai de breton ? Bah ma famille déjà, mon amour pour la pluie et puis sans doute... Mon amour pour la vie et puis pour la fête, pour les gens, j'en sais rien.
Alors pour la pluie, je vais vous poser une question justement. Comment est-ce qu'on fait pour pas avoir les pieds mouillés si on n'a pas de bottes ? Est-ce que vous avez trouvé des chaussures qui donnent un peu d'allure mais qui ne sont pas mouillées sous la pluie ?
Je suis pas très forte pour tout ce qui est allure. Moi,
c'est vrai ?
je sais pas trop ce que je cherche en premier. Non, moi ça me dérange pas du tout d'être trempée, je crois. Je crois que à partir du moment où tu acceptes ta sentence et le fait que tu es trempée, c'est assez agréable de danser sous la pluie et de
comme Gene Kelly.
Voilà. Après c'est le problème, c'est quand il ne pleut plus et que tu te retrouves juste avec la sensation d'être mouillé. Mais la sensation de la pluie sur le corps, je trouve ça assez agréable.
C'est très joli que vous utilisiez le mot sentence. Je trouve ça très solennel. Sur votre deuxième prénom, c'est Mélusine. Ouais. Qu'avez-vous de féerique ?
Mon romantisme, sûrement.
Vous êtes très romantique ?
Ah oui. J'adore l'amour et puis j'adore me l'inventer, j'adore la poésie, j'adore le rêve. Je rêve beaucoup. Qu'est-ce que j'ai de féerique? Je pense surtout le rapport au rêve. Je passe mon temps à rêver, à m'inventer une vie. Voilà. Féerique, j'en sais rien.
Non, mais ça, on va en reparler en détail parce qu'on va passer en revue votre album en version symphonique. Récemment, j'ai reçu le chanteur québécois Pierre Lapointe, qui racontait que la vitesse de son succès lui avait causé une dépression. Comment avez-vous vécu la vôtre?
Eh ben, ça dépend des moments. J'ai eu des périodes plus joyeuses que d'autres. Je pense que c'était surtout le début qui était un petit peu particulier. Je pense que ce qu'il y a de pire... En fait, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, j'adore avec qui je le fais, j'adore pratiquement tout dans ce métier. Ça, c'est quand même assez énorme, parce que c'est vrai que quand tu rêves d'être chanteuse à 15 ans, tu n'as aucune idée de ce que c'est le métier de chanteuse. Et je savais que j'aimais chanter, je savais que j'aimais écrire, mais je ne savais pas que j'aimais... tout le reste, c'est-à-dire parler avec des gens à la fin d'un concert, se retrouver à une radio, faire des photoshoots. Enfin, il y a tellement d'autres trucs que tu vois, seulement le fait de chanter. Donc j'aime beaucoup mon métier. Ce que je trouve un peu plus compliqué dans ce métier, c'est plutôt le rythme. Moi, je suis quelqu'un de très gourmande. J'ai eu la chance qu'on me propose beaucoup de choses et j'ai eu du mal à dire non. Et là-dessus, peut-être que j'ai eu tort à certains moments, parce que je pense qu'être fatigué, c'est ce qu'il y a de plus dur pour un esprit. L'épuisement, ça amène à une non-capacité à se réjouir, à rire. Enfin, je me suis éloignée à un moment de mes émotions, moi qui suis très sensible. Je pense que c'est là où ça a été dur. À un moment, je ressentais beaucoup moins les choses. Mais maintenant, tout va mieux. J'ai retrouvé un équilibre et j'adore ce qui m'arrive.
Alors justement, vous faites l'éloge de la sensibilité. Vous trouvez qu'au lieu d'être une faiblesse, c'est une force. Mais n'avez-vous jamais souhaité parfois être moins heurté partout? Parce que ça peut être fatigant aussi de tout ressentir très fort.
Ah bah ça a été ma première pensée. Toute mon enfance, je pense que j'aurais payé très cher pour me débarrasser de cette sensibilité. Je n'y voyais que une fragilité, ou en tout cas une... Je ne la voyais pas du tout comme je la vois maintenant. J'ai compris la force de la sensibilité une fois que j'ai compris qu'il fallait juste la mettre au bon endroit. Et que, effectivement, quand on pleure quand on pleure très vite, quand on a du mal de s'exprimer, parce que pleurer en parlant, c'est toujours compliqué, ou plutôt parler en pleurant. Mais je crois, en fait, profondément que, quand même, être sensible, ça nous rend gentils, compatissants et donc intelligents. Ça nous rend, et surtout, je le dis, vivants. Moi, je pense que, maintenant qu'en plus j'ai goûté à une sensibilité moindre à un moment, parce que sûrement j'ai dû caresser une sorte de dépression à un moment, il n'y a rien de pire que de ne pas ressentir. Moi, je préfère nettement pleurer beaucoup et rire beaucoup que ne rien sentir du tout. Mais sûrement parce que je n'ai pas encore eu... j'ai eu la chance d'être quand même aussi protégée d'une tristesse immense. Je pense que je n'y ai pas encore goûté. Peut-être que le jour où je goûterai à une tristesse immense, je préférerais rien sentir du tout. Mais j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Parce que bon Dieu, nous a goûté là, ça pour sentir. Voilà.
On va écouter l'une de vos orchestrations en entier, le morceau intitulé 1.
Thank you.
20e heure, Eva Bester sur France Inter.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris, ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau.
Zao Tsagazan, on entend la version symphonique de la Symphonie des Éclairs. J'imagine que c'est de vous que vous parlez quand vous dites, dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas.
Tout à fait.
Comment vous avez fait pour canaliser tout cela? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, quand on met la sensibilité au bon endroit, on trouve un certain équilibre. Mais comment on fait pour la mettre au bon endroit?
Et déjà, quand on accepte qu'on ne la canalisera pas. Je pense que ça fait partie de mes plus grandes découvertes avec le temps. C'est que quand on essaye de canaliser quelque chose, en fait, si ce quelque chose a besoin de sortir, elle sortira. Et quand on essaye de boucher un évier, à la fin, il explose. Car de toute façon, la pression de l'eau est là et a besoin de sortir. Et donc, pendant très longtemps, moi, j'ai cru à une possibilité de cacher cette sensibilité-là, à la refouler, et ça n'existe pas. J'ai jamais réussi à le faire, et de toute façon, elle sortait, dans ces cas-là, toujours au mauvais endroit, dans des moments où il fallait pas, et dans des moments où ça ne racontait rien. C'était juste une pression qui pétait. Et c'est le jour où, moi, j'ai découvert la musique, et j'ai commencé à mettre cette sensibilité-là à cet endroit, c'est-à-dire pleurer sur mon piano, que là, tout a changé. Et tout d'un coup, cette énergie, puisque ça reste de l'énergie, c'est ça qui est fantastique. Hein. Une pression, tout ça, tu fais... C'est de l'énergie avant tout. La tristesse, il y a de l'énergie extraordinaire dans la tristesse, dans la joie aussi, évidemment. Mais je pense qu'il y a surtout cette idée d'abandonner le fait que tu arriveras à empêcher cette tristesse de sortir. Elle existera toujours. Il faut juste pas... Je pense que le pire, c'est le déni dans cette affaire. Donc embrasser sa tristesse, la regarder, oser la regarder, se demander à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle raconte. Et puis, qu'est-ce que tu peux en faire après que tu l'as comprise? Et peut-être, même des fois, tu ne la comprends pas, mais tu l'utilises quand même.
Vous parlez beaucoup de vos émotions dans vos concerts directement aux spectateurs. Et je crois qu'après, il y a un quart d'heure de techno et de fête à la fin des concerts. C'est une expérience cathartique?
Ouais,
ou c'est une communion d'émotions?
Oui, de toute façon, je vois le concert comme une communion en général. L'idée, c'est quand même de ce concert, c'est de remettre les émotions au centre de tout, parce que je pense qu'on est d'abord avant tout des êtres sensibles, et de se rappeler que c'est aussi cette émotion et cette sensibilité qui fait qu'on est des êtres sociables, et donc pas solitaires. Je crois que c'est tout l'intérêt d'un concert, c'est de se rappeler que les gens autour de toi ne sont pas des intrus, des ennemis ou quoi que ce soit, ce sont des gens comme toi qui ressentent des émotions aussi, forcément de manière différente, parce qu'on n'a pas la même vie. Mais oui, l'idée de ce concert, c'est vraiment d'oser pleurer à côté de quelqu'un et puis petit à petit de transformer cette tristesse, cette émotion en un lâcher-prise que je trouve hyper fondamental pour pour moi, c'est vraiment ce concert, c'est les émotions de l'amour et de la liberté. Et j'ai très envie que les gens sortent avec plus d'amour et de liberté en eux, et c'est en tout cas la mission que je me donne.
Vous avez un propos incroyablement articulé sur tout ça, et on dirait que vous avez la sagesse d'un philosophe que j'imagine qu'on atteint sur une montagne, un philosophe de 120 ans éternel qui donne le secret de la vie. Comment avez-vous fait pour savoir tout ça aussi jeune? Est-ce que vous vous êtes fait aider par l'extérieur, ou est-ce que vous avez expérimenté et l'avez trouvé toute seule?
Ce serait vraiment culotté de ma part de dire que cette sagesse vient de moi-même uniquement. Pas du tout, non. Je pense que j'ai la chance, moi, d'être née quand même dans une famille très aimante, où l'amour a toujours été au centre, et je pense que ça aide beaucoup. Voilà, je pense que l'amour est la solution de beaucoup de choses. Quand on est aimé comme ça, et que, voilà, je suis une petite fille qui a eu des grandes sœurs, des parents formidables, qui m'ont toujours dit qu'il fallait s'aimer, qu'il fallait oser, qu'il fallait... Et qu'il fallait se tromper, que c'était pas grave de se tromper.
Est-ce que vous auriez un conseil pour ceux qui n'ont pas reçu cet amour enfant?
J'ai pas envie d'avoir l'audace de leur conseiller quoi que ce soit, parce que j'ai pas vécu leur vie, et je n'imagine pas comme c'est dur de commencer une vie sans amour. Moi, j'aurais surtout tendance à dire qu'on a tous une raison d'être aimé, et que ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à... Bien que que ma famille m'aimait beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse m'aimer, et qu'il y avait une raison à... Enfin, bref, je crois qu'on est beaucoup à avoir du mal à envisager qu'on est aimable. Et ça, je trouve ça assez terrible.
Oui, c'est assez partagé comme sentiment, en effet.
Ouais, on a beaucoup de mal à imaginer que quelqu'un puisse nous aimer, alors que moi-même, je suis quelqu'un qui aime tout le monde, j'ai toujours aimé les gens, etc. Donc je pense que j'aurais surtout tendance à dire à... Là, je lis un livre que je trouve extraordinaire de Bell Hooks qui s'appelle « À propos d'amour ». Déjà, je conseillerais ces personnes à lire.
Ah oui, Bell Hooks, sans majuscule.
Oui, c'est un livre assez fantastique qui parle d'amour. Et elle pose cette question-là de qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est un sentiment? Elle pense plutôt que c'est une action. Et surtout, elle pense que ce n'est pas inné d'aimer. Et qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas aimer parce qu'ils n'ont pas été aimés en premier. Et ça, je trouve ça assez... J'aime beaucoup les auteurs en général, qui amènent à la bienveillance, à être bienveillant avec soi-même. Je pense aussi à Montaigne, qui a plutôt tendance à me faire ça. Quand on lit ça, on est plus gentil avec nous-mêmes. C'est pas en mode on est moins exigeant, parce qu'on reste exigeant avec nous-mêmes, mais je pense que c'est important de se dire que si quelqu'un ne t'a pas aimé, c'est pas forcément que tu n'étais pas aimable, c'est parce qu'il ne savait pas le faire. Et le problème ne vient pas de toi, le problème vient de toute une société qui nous apprend pas à le faire. Mais on est tous profondément aimables, et je pense qu'on a tous une raison d'être aimés, et qu'il faut juste apprendre à le faire, mais c'est pas facile.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas.
Zaoud Sagazan, vous chuchotez pendant qu'on entend ces gens-là de Brel 66, parce que je crois que ça a été un déclic pour vous quand vous l'avez vu à la télévision, et ensuite vous avez regardé les images 50 fois de suite. Vous vous êtes dit, mais c'est incroyable, en fait, on peut raconter des histoires en 3 minutes.
Complètement. Merci déjà, parce que je ne l'avais pas écouté depuis longtemps, et ça me fait toujours tellement plaisir d'écouter Brel. Effectivement, Brel, j'ai beaucoup appris en le regardant, en l'écoutant. Moi, ce que j'adore, et c'est ce que la chanson française m'a appris, entre autres, c'est effectivement la puissance d'une musique et d'une chanson, à quel point on peut raconter un nombre de choses en si peu de temps.
D'ailleurs, il y a une évolution narrative dans vos chansons. Il y a souvent des... Je vais employer un mot anglo-saxon, mais un twist de finale. Je ne sais pas, je pense aux garçons, par exemple, la chanson « Les garçons ». Oui. Où après, on se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout de ce qu'on pensait au début.
Oui. Du fait sûrement que j'ai appris à écrire en écoutant des gens comme Brel, il y a beaucoup cette idée d'histoire, de conte, un peu de petites nouvelles que j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours adoré les fables de La Fontaine. J'aime beaucoup cet exercice limite un peu mathématique, voilà, d'un début, d'une fin, d'un milieu, d'une fin, d'une morale. Je trouve ça très intéressant de se poser la question de le côté limite un peu très, c'est pas mathématique le mot, mais très logique d'une chanson. Il y a un début, faut mettre un contexte, faut essayer de comprendre. Moi, je trouve que Brel, là-dedans, il est extraordinaire, parce que en 3 minutes, tu te retrouves dans cette cuisine, au milieu de cette table, et t'as l'impression de... J'ai l'impression d'être plus tolérante depuis que j'écoute Brel, je trouve que c'est aussi le pouvoir de la musique, c'est d'ouvrir nos horizons. Quand on écoute Brel, quand on écoute Barbara, on apprend sur le monde. Et je trouve ça fantastique, c'est tout l'intérêt d'un livre, c'est tout l'intérêt d'un film, c'est d'amener à la tolérance, à la compréhension du monde qui nous entoure, parce que sinon on est très fermé sur nous-mêmes et on ne connaît que nous-mêmes. Donc je pense que c'est tout l'intérêt d'une musique, c'est d'apprendre sur l'autre, du monde et de ce qui nous entoure. Et j'aime cet exercice de se dire, on a 3 minutes pour parler d'un sujet, on n'a pas c'est pas une dissertation, on n'a pas le temps, on n'a pas 8000 mots, et en même temps on a le temps de dire beaucoup de choses quand même. Je trouve que Brel est très fort dans ce domaine, mais il y en a d'autres qui sont très forts aussi. Je pense à Souchon, je pense à plein de gens. Mais en plus, Brel, il a autre chose. Il a le talent d'écriture, mais il a aussi le talent d'interprète.
Mais c'est presque un comédien. D'ailleurs, il était comédien.
Il était comédien, et je pense que surtout ce que j'ai appris de Brel, c'est son minimalisme. Comme on peut dire beaucoup avec peu, et comme il suffit d'un corps, d'une bouche, et d'une douche sur ce corps,
d'ailleurs,
pour dire énormément de choses. Voilà.
En parlant de corps, vous étiez féru de danse petite, et vous avez arrêté à 13 ans, et ensuite vous êtes passé au piano. Et dans un article sur vous, j'ai vu que vous aviez découvert l'ennui en arrêtant la danse, mais que vous étiez consolé en écoutant en boucle le chanteur et pianiste britannique Tom O'Dell, avec lequel vous chanterez des années plus tard sur le morceau Old Friend. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Moi, je viens d'une famille nombreuse. Et dans une famille nombreuse, on a la chance de ne jamais s'ennuyer. Surtout avec les sœurs que j'ai, qui sont extraordinaires et d'un comique infini. Donc, j'étais une petite sœur avec une jumelle. Je n'ai que très peu connu la solitude. Et nous avions toujours des activités à faire. J'arrête la danse à un moment parce que j'en ai marre. Mes sœurs partent au même moment, mes grandes sœurs. Je me retrouve seule avec ma sœur jumelle qui, elle, a découvert le dessin. Et là, plus aucune activité. La maison est silencieuse, ce qui n'est jamais arrivé en 15 ans. Et je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire. Je déteste cette solitude. Je me replie sur moi-même. Je prends aussi 15 kilos avec l'arrêt de cette danse qui m'amène à une détestation de mon corps total. Et voilà. Et je déteste cet ennui. Je n'attends qu'une chose, c'est le repas. Pour pouvoir reparler à mes... Voilà. Je n'aime pas cette solitude. Et tout d'un coup, je vais découvrir Tom O'Dell. Je vais le voir un peu comme un miroir, ou en tout cas comme un double. Je vois en lui la même tristesse que moi, le même besoin de crier, le même besoin de pleurer. Sauf que lui a trouvé l'endroit où le faire. Il a un piano qui ressemble au piano de ma grande sœur qui est dans le salon. Et je le vois fermer les yeux, limite de manière douloureuse, crier et défoncer ce piano. Et je me dis, putain, c'est dingue, je ne fais que pleurer toute la journée. Je crie sur ma sœur parce que je ne sais pas comment exprimer mes émotions. Et j'ai l'impression que ce mec a trouvé quelque chose, un chemin qu'il faut que je suive. Je me mets au piano, et dès les premières heures sur ce piano, j'hallucine complètement. Ces heures qui paraissaient si longues il y a quelque temps, tout d'un coup, semblent être quelques minutes. Et effectivement, je me dis, dès la première fois où je me mets au piano, c'est bon, je ne m'ennuierai plus jamais. J'ai trouvé un endroit où le temps passe rapidement, et où surtout je me sens mieux après. Donc j'ai seulement suivi effectivement le chemin de Tom O'Dell, c'est tout l'intérêt d'une idole, c'est de nous montrer le chemin. Et maintenant j'ai eu la chance de chanter avec lui et de me rendre compte qu'en plus d'être un humain très talentueux, c'est un humain d'une gentillesse absolue. Donc voilà.
Il y a quelque chose de très beau, si vous me permettez de rebondir sur ce que vous disiez, parce qu'en début d'émission vous avez parlé du rythme qui était difficile à suivre dans votre métier. Et je crois me souvenir que dans une interview, vous disiez qu'en fait, pour écrire des chansons et raconter des histoires, il fallait que vous viviez des choses, puisque vous vouliez écrire sur des choses, des expériences, et qu'en fait, vous n'étiez jamais seul et n'aviez jamais le temps d'en vivre. Donc il fallait quand même avoir du temps pour vivre, pour ensuite en faire des chansons. Comment faites-vous pour cela ? Qu'avez-vous prévu ?
Je pense qu'il y a plein de manières de vivre des choses. On peut vivre des choses en lisant un livre. Lire, ça amène beaucoup. Ça ouvre beaucoup de portes dans l'imaginaire et dans notre rapport au monde.
Vous composez à partir d'images, parce que je sais que Baudelaire, par exemple, vous a inspiré pour La Fontaine de Sang.
Ouais, il y a plein de manières d'être inspiré. On peut être inspiré par une discussion autour d'un verre avec une amie. Moi, j'ai beaucoup d'imagination et j'ai toujours beaucoup travaillé mon imagination.
Comment est-ce qu'on la travaille ?
Je pense qu'il faut s'ennuyer déjà.
Ah.
Il faut regarder, il faut observer. puis il faut se raconter des histoires. Moi, je passe mon temps à me raconter des histoires. Moi, j'ai été longtemps une petite menteuse. J'avais pas grand-chose à raconter de ma vie. Du coup, je m'inventais des trucs. Et puis je sais pas, j'étais dans la rue, il se passait quelque chose. Et je me dis, putain, si ça s'était passé comme ça, ça aurait été encore plus drôle. Puis après, je racontais qu'il s'était passé ça. Mais c'était une manière de... C'était même pas l'idée de mentir. C'était plutôt de trouver voilà, des histoires, raconter des histoires. Donc, je pense que le meilleur moyen de travailler son imagination, c'est de lire, c'est d'écouter. C'est de s'éloigner sûrement du portable qui peut avoir tendance à nous donner des informations, alors que le principe d'imaginer, c'est d'aller chercher ces imaginations au fin fond de notre cerveau.
Quand on fantasme et qu'on rêve beaucoup comme vous, est-ce qu'on n'est pas trop déçu par le réel ensuite ?
Alors ça, je sais que c'est quelque chose, j'ai beaucoup parlé de ça avec mes amis. J'en parlais avec une de mes meilleures copines, je lui disais, moi je rêve beaucoup. Et elle me disait qu'elle s'empêchait de rêver parce qu'elle avait peur d'être déçue. Et c'était marrant parce que je n'avais pas du tout envisagé les deux. Je voyais pas le rapport. Je sais que moi j'ai une capacité à rêver sans avoir la peur d'être déçue parce qu'en fait je ne vois pas le rêve comme un espoir. Je vois le rêve vraiment comme une transformation. Comment je pourrais dire ça ?
Une transfiguration ? Une
ouais,
sublimation ?
C'est en fait quand je rêve, je ressens. Donc par exemple, j'ai beaucoup rêvé d'amour. Je suis tombée amoureuse, je pense, un milliard de fois dans ma vie.
Parce que dans une interview, vous dites « je ne connais pas l'amour, ce n'est pas pour moi ».
Non, mais en vrai, je ne connais pas vraiment l'amour, mais en tout cas, je me suis beaucoup inventée. Je tomberai en amour d'un sourire, et puis je m'inventais toute une histoire d'amour avec un garçon. Et ben, quand je me retrouvais dans mon lit à me raconter réellement l'histoire, à limite embrasser ma main pour m'inventer cette histoire, je m'en foutais si c'était à la fin, ça n'arrivait pas. Ce qui est sûr, c'est pendant que je me l'imaginais, je ressentais des choses, je ressentais des papillons dans mon ventre, ça me faisait rire, ça me faisait... Je pense que c'est tout l'intérêt de l'imagination, c'est que ça a quand même un vrai impact sur le réel. Moi, je pense que j'ai pu m'y perdre à un moment dans le rêve, mais j'ai l'impression que le rêve, c'est juste une transformation de la réalité, et je rêve pour l'instant même du rêve. Je ne rêve pas dans l'espoir que ça arrive à un moment, juste le fait de rêver fait que ça arrive un petit peu dans ma tête.
Vous avez d'ailleurs un morceau qui s'appelle « Je rêve ».
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Zao Tsagazan, vous avez fait une version symphonique de la Symphonie des Éclairs avec orchestre et sous la direction de Dylan Corley. C'est plus lyrique, plus cinématographique. Avez-vous participé à l'orchestration et comment avez-vous travaillé sur votre interprétation ? Ça ressemble à un opéra presque.
On l'a pensé comme ça, oui, effectivement. Quand on nous a dit qu'on pouvait travailler, c'est quand même une chance extraordinaire de pouvoir chanter avec un orchestre. Très vite, on s'est posé la question avec Pierre Cheguillaume, qui est mon bras droit artistique, avec qui je fais tout, avec qui j'ai produit l'album électronique, avec qui je produis absolument tout, le live, etc. Et on s'est posé la question de comment envisager une version orchestrale. Qu'est-ce que ça rapporte, un orchestre ? Et effectivement, vous l'avez dit, la première chose que ça rapporte pour moi, c'est le côté cinématographique. Pour moi, le symphonique, c'est tous les films que j'ai vus, c'est tous les dessins animés, c'est Miyazaki, c'est Totoro, c'est tellement de choses différentes, mais en même temps, c'est aussi les contes. Il y a un côté très cinématographique. Et donc, on s'est posé la question de comment envisager ce... Tous les arrangements avaient été faits, et on s'est retrouvé à Amsterdam avec Pierrot à écouter les arrangements et à devoir faire une setlist. Et on commence à réfléchir à cette liste. On se dit, mais comment on fait une setlist d'opéra ? Nous, en version électronique, c'était beaucoup plus logique. Il y avait cette idée d'évolution qui va de plus en plus vers la transe. On était beaucoup plus à l'aise avec cette idée-là. Et tout d'un coup, un symphonique, il n'y avait pas d'idée de transe. Il y avait juste une idée de conte.
Mais on ressent la transe surtout à la fin de vos chansons.
Je pars en transe avec le symphonique, ouais. Effectivement, parce que le symphonique m'enlève toutes mes vérités, toutes mes habitudes, et donc je suis dans un océan avec plein de vagues, et j'essaye de m'y retrouver. En même temps, ça me permet d'aller dans des endroits où je ne serais jamais allée dans ma vie. Donc il y a un côté de lâcher prise totale qui est très très agréable avec le symphonique, parce que si tu tentes de ne pas lâcher prise, là tu te pètes la gueule. En tout cas, voilà, on a réfléchi avec Pierrot, et très vite nous est arrivée l'idée de mouvement et de saison. Nous avons copié Vivaldi. Et en fait, on a juste raconté cette histoire d'une fille qui, avant tout, commence la vie par plein d'insouciance, une envie d'amour insatiable, une envie d'expérience insatiable, la drogue, l'amour, les garçons, l'inconnu. Et puis arrive pendant le deuxième mouvement les premiers chocs d'une vie, les dormantes. Première fois qu'on se rend compte que la vie n'est pas si douce. Cette rencontre avec le piano, avec Dis-moi que tu m'aimes, est suffisamment. Et puis surtout après, les premiers chocs, le corps, le rapport au corps, la détestation, etc. Puis arrive le troisième mouvement où là c'est vraiment la descente aux enfers. La haine qui arrive, la haine, la tristesse, la peur et surtout la déchéance, comme on raconte avec le dernier des voyages. Puis arrive, quand on touche le fond, heureusement la résilience, avec ce quatrième mouvement, la symphonie des éclairs, All Friend, l'importance d'un ami dans une vie, comme ça peut nous remettre sur le droit chemin. Et puis surtout l'envol, la symphonie des éclairs et tout ce qui va avec. Et donc ça finit bien, et heureusement.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires d'eux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares.
Ça, Aude Sagazan, on entend un extrait du morceau que vous venez d'évoquer, Les Dormantes, sur un amour toxique, et vous dites que vous n'aviez pas l'ambition d'en faire un hymne féministe, que vous aviez écrit la vie d'une de vos meilleures amies. Et alors je reviens sur votre définition de l'amour, puisque je sais que vous êtes une rêveuse et que vous êtes dans la fantasmagorie, mais vous dites dans plusieurs interviews, l'amour je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas connu, alors que l'amour c'est le thème principal de cet album. Comment est-ce qu'on fait pour écrire aussi bien dessus sans le connaître? Ou peut-être que c'est parce que vous écrivez aussi joliment dessus parce que vous ne le connaissez pas.
Alors c'est possible, c'était quelque chose que m'avait dit Barbara Pravi quand j'ai fait écouter Les Dormantes. Il m'avait dit, c'est dingue parce que je comprends pas comment t'as pu écrire cette chanson sans l'avoir vécue. En même temps, je suis sûre que si tu l'avais vécue, t'aurais pas pu écrire cette chanson. Je trouve ça assez génial comme principe. Mais je pense que déjà, je me trompe quand je dis que je ne connais pas l'amour. L'amour, c'est partout. Je connais très bien l'amitié, par exemple. Et l'amitié, ce n'est qu'un amas d'amour.
Et oui, et puis ça dure souvent plus longtemps.
Et exactement. L'amour prend tellement de formes différentes. Je pense que je ne suis qu'amour. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime la musique, j'ai plein de choses. J'aime manger, j'aime faire plein de choses dans la vie. Donc l'amour, il est partout. Je ne connaissais pas l'amour romantique. Et je m'en faisais beaucoup d'idées, l'amour romantique. Il y a quelque chose d'assez fantastique qui est en même temps un peu mystérieux dans l'amour romantique. Il est partout, dans tous les films, dans toutes les chansons. Et donc je me posais beaucoup de questions de ça. En fait, je pense qu'on se posera toujours la question de qu'est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est un sentiment, est-ce que c'est une action, est-ce que c'est forcément quelque chose de réciproque. Je ne sais pas vraiment ce que c'est l'amour, mais je pense que je suis très heureuse. J'ai envie de découvrir toutes les formes d'amour qui existent. Mais je pense que l'amour maintenant, avec le temps, il y a quand même beaucoup cette notion de liberté. Je pense qu'on définit pas bien l'amour. Que cette société nous montre quelque chose de faussé de l'amour et que dans toutes les comédies romantiques, il y a notion de mensonge et de jalousie
et de possession,
et je pense que c'est l'inverse même de l'amour. Je pense que l'amour, c'est l'envie d'élever l'autre et de s'élever soi-même. Et pour s'élever, il faut de la liberté, il faut de la bienveillance et il faut tout sauf du pouvoir et de la jalousie et de la possession.
Je crois que vous y connaissez quand même pas mal en amour.
Tree.
C'est votre choix musical, Zao de Sagazan, Ding Dong de Sylvie Crush.
Eh oui. Franchement, j'ai hésité. J'aurais pu mettre Andrea Laszlo de Simone parce que je n'écoute que lui depuis un an. Mais j'adore aussi Sylvie Crush. C'est les deux que j'écoute le plus en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ils ont tous les deux une... J'adore leur voix, j'adore leur mélodie, j'adore leur... Et j'adore cette meuf, elle est absolument extraordinaire, il faut la voir sur scène. Elle a une aisance, une classe que j'adore. Et surtout une grande liberté.
Le début de la version symphonique de votre morceau Aspiration, Zao de Sagazan. Et alors, je trouve qu'on entend un son fantomatique, fantastique, un peu comme sur Mon corps et Est-ce que tu vas bien. Je pense aussi au morceau Tristesse, où il y a d'abord des sons de basse très graves, quasi laser, surmontés par des cordes aiguës, suggérant presque une atmosphère surnaturelle d'épouvante. Est-ce que c'est ce que vous vouliez?
Complètement. Je pense que quand on écoute cet album symphonique, on entend toutes mes inspirations cinématographiques.
Et les fantômes.
Et les fantômes, évidemment. On entend des musiques de films d'horreur, comme on entend des films de dessins animés du château ambulant. Ça va du château ambulant au film d'horreur, à Peau d'âne, à plein d'endroits. Les ondes Martenot, moi je crois que c'est un...
Qu'a utilisé Brel.
Exactement.
Sur Ne me quitte pas.
Exactement. C'est très proche de l'instrument de Theremin. C'est un des premiers instruments électroniques et c'est le parfait mélange d'une voix, d'un synthé et d'un violon. Et je pense que c'est l'instrument qui me touche le plus au monde. Je l'ai découvert effectivement avec Brel et quand j'ai su que j'allais faire un symphonique, je savais que la première chose que j'allais mettre dans cet orchestre symphonique, c'est des ondes Martenot. C'est Nathalie qui les joue et maintenant dans tous les concerts qu'on fait. Et c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est un ami lointain. Dès qu'il arrive, ce son, j'ai l'impression que c'est venu pour me rassurer, en même temps pour me faire peur. Je sais pas, mais ça me touche, ça me transperce le cœur, les ondes Martenot.
Sur votre morceau « Mon corps », à la fin, j'ai l'impression qu'il y a un effet peut-être du vocodeur. Je ne suis pas musicienne, mais ça sonne un peu comme Kraftwerk. Et je sais que vous les aimez et que vous aimez aussi l'électro, évidemment. Et je crois que ça vient du fait que votre père vous avait offert un vinyle de Coup de l'âme.
Complètement. Mon père a eu l'audace un jour de me dire, de m'offrir, il m'a offert un seul vinyle dans sa vie. C'était celui de Coup de l'âme, Alcoolique Hymne, un de ses premiers EP. Et il m'a dit, ça va changer ta vie.
Et ça a changé votre vie?
Bah d'abord, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, redescends. Qu'est-ce que t'en sais? Ça a effectivement changé ma vie. C'est la première fois que j'ai écouté de la musique électronique. En tout cas, cette musique répétitive, très froide, synthétique, avec ses premiers arpégiateurs. Et ça m'a complètement chamboulé l'esprit. Et depuis, je suis une fan inconditionnelle de musique électronique. J'adore les symphoniques. Je peux me perdre dans des cordes, mais je peux aussi complètement me perdre dans un arpégiateur qui vient me transpercer le cœur.
Tout à l'heure, en parlant de transpercer le cœur, on va citer un petit coco qui était bien au courant de ce que ça voulait dire. C'est Baudelaire. Il vous a inspiré pour La Fontaine de sang. Et ça vous a inspiré des images très fortes. Vous en avez fait une chanson... à portée écologique. Vous êtes très impliquée d'ailleurs dans cela. Vous prenez le train plutôt que l'avion, vous êtes végétarienne. Et dans une interview, vous dites qu'écrire cette chanson vous a fait du bien parce que vous avez compris que ce n'était pas la Terre qui était en danger, mais bien l'humanité. Donc vous êtes rassurée pour la Terre, mais c'est pas grave pour nous.
Bah, c'est plutôt que... moi, je crois que ce qui me rendait triste surtout, évidemment que ça me terrifie l'idée que tant de vies humaines sont bouleversées à cause de d'autres choix, de d'autres humains. Mais dans l'idée de justice, moi, je crois que ce qui me terrifiait le plus, c'était cette injustice qu'on vient piller une terre qui n'a rien demandé et qui, d'abord, au départ, n'a fait que nous offrir. Et c'est exactement ce dont parle cette chanson, c'est que c'est une fontaine qui a accepté d'ouvrir ses portes, nous a offert de l'eau depuis le début et qu'on a décidé de finalement pas... pas la remercier, mais de la piller et de la tuer. Et donc, il y avait quelque chose d'assez horrible que je trouvais dans cette métaphore-là. Et je me disais, mais en fait, on est des gens effrayants. On nous a offert un monde extraordinaire, avec des fruits et des animaux extraordinaires. Et on a décidé qu'on allait tout piller plutôt que se partager et remercier le monde de nous offrir tout ça. Et effectivement, le fait de me dire que, en fait, c'est surtout nous qui allions en baver à la fin, ça me rassure un petit peu. Mais enfin bon, en vrai, ça me rassure pas du tout, parce que quand même, c'est ce que je dis, on est en train de tuer nos enfants et il y a une injustice totale dans ça. Mais peut-être que ça me rassure un peu de me dire que le monde et les montagnes seront encore là une fois qu'on s'en ira. Mais ça reste tout aussi triste.
C'est vrai. J'aime bien terminer l'émission par des recommandations de films, de livres, ce que vous voulez. Vous avez carte blanche. Est-ce qu'il y a des livres auxquels vous pensez que vous aimeriez recommander aux auditeurs? Un peu de beauté après avoir parlé de fin du monde.
Il y a tellement de beauté. On fait partie des choses que nous, on offre au monde, hein, parce qu'on offre quand même des choses au monde. Et entre autres, c'est la beauté de l'art. C'est dur quand même, parce que là, j'ai trop de choses qui me viennent.
Dites-les toutes en même temps.
Je pense déjà à Andrea Laszlo de Simone, que j'ai rencontré encore tout à l'heure. Je trouve que c'est la plus belle BO de vie possible. Je pense évidemment à Pink Floyd, qui me parle beaucoup. À Wish You Were Here, que j'écoute en boucle. Je vais essayer de parler autre chose que de musique, parce que je pourrais parler que de musique. J'ai eu la chance de faire un documentaire sur Arthur Rimbaud avec Arte. Et donc de redécouvrir tout l'art, toute la poésie d'Arthur Rimbaud, qui est quand même assez extraordinaire, surtout vu son jeune âge. Mais je pense à... Vous parlez de poésie tout à l'heure, parce que la poésie, on peut le trouver évidemment dans des poèmes, mais partout. Moi, je crois que j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me dire qu'il ne connaissait absolument pas l'œuvre de Miyazaki. Et je conseillerais à toute personne, alors qu'il y a un enfant encore plus, mais même sans être un enfant, je crois qu'une œuvre qui touche le plus la perfection de la poésie, je pense que c'est vraiment Miyazaki. Je pense au Château ambulant, à Totoro, à
Voyage de
Chihiro, extraordinaire.
Extraordinaire et effrayant.
Effrayant, mais je trouve qu'il a une capacité à toucher en même temps à la beauté du monde, à sa violence, à son injustice, et à de l'espoir, et voilà, on frôle une perfection, et je conseille à toute personne qui n'a jamais pris le temps de découvrir le monde de Miyazaki, de le faire, parce que ça réveille les consciences, et en même temps ça apaise les cœurs, et c'est rare de réussir à faire un truc pareil.
Merci beaucoup Zao de Sagazan.
Et de rien, merci à toi, merci à vous.
Comme vous voulez. La version symphonique de La Symphonie des Éclairs est disponible sur toutes les plateformes et en CD et en vinyle. Vous serez le 13 novembre au Zénith de Nantes et la captation de La Symphonie des Éclairs enregistrée avec les musiciens de l'Orchestre Symphonique de Lyon est déjà en ligne sur le site d'Arte. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Alexandra Conet et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Julien Dumont.